le thème de l'honneur. Et c'est un peu le thème de l'année pour l'Église, parce que le but, c'est pas seulement qu'on aime un thème, mais qu'on le vive, qu'on l'incarne. J'aimerais juste revenir sur ce que nous avions vu avant d'aller plus loin. Et l'honneur, juste quelques mots qui doivent nous parler. Parce que Dieu, la culture de Dieu, c'est une culture de l'honneur. Et l'honneur, ça veut dire valoriser, ça veut dire accorder de la valeur, ça veut dire donner du poids, ça veut dire apprécier, ça veut dire estimer, ça veut dire regarder favorablement, ça veut dire respecter. Tout ça, c'est l'honneur. Le déshonneur, c'est quoi? C'est pas témoigner de respect, c'est pas témoigner d'estime, c'est pas reconnaître la valeur, c'est traiter de façon ordinaire, normale, servile, toute chose, c'est traiter toute chose comme léger, superflu, voilà. Donc ça, c'est, on veut développer une culture de l'honneur. Et la culture de l'honneur, c'est pas quelque chose du bout des lèvres. C'est une culture, ça vient du cœur. Et c'est quand Jésus, enfin dans les Écritures, on trouve ce passage des prophètes, c'est le prophète Isaïe qui dit, quand le peuple s'approche de moi, il m'honore, mais avec la bouche et les lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Donc on peut honorer avec la bouche, mais le cœur est encore loin. Donc bien sûr, on veut parler d'une culture de l'honneur. On avait vu le fameux texte de Jésus dans les évangiles, dans Luc 5, lorsqu'on voit que Jésus, il est là, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, ils étaient venus pour de plusieurs coins de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la Bible dit, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Tout le monde, les pharisiens, docteurs de la loi, tout le monde. Mais seulement, on voit dans la suite de l'histoire que les pharisiens, les docteurs de la loi n'ont pas été guéris, et les autres l'ont été. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était l'attitude de cœur. Les docteurs et les pharisiens, ils avaient Jésus qui était là, mais ils ne reconnaissaient pas le vase. Aucun honneur au vase par lequel Dieu voulait les bénir. Et nous avions vu que très souvent, Dieu utilise des vases dont on ne s'attend pas que ça puisse être eux qui seront le canal de bénédiction. Et parce qu'on ne s'est pas honoré, on ne reçoit pas la bénédiction, alors que Dieu voulait la donner. Et donc là, on a ce cas typique. Et donc les gens étaient frappés d'étonnement de ce que par rapport au message de Jésus. Mais ces docteurs qui étaient frappés d'étonnement, eux-mêmes n'ont pas vécu la guérison. Donc on avait vu aussi le centurion, celui qui a accordé de l'honneur à Jésus, hein, qui a dit, mais dites seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et c'était un homme de foi, c'était un homme qui connaissait le circuit d'autorité. Et quand Jésus dit, j'ai pas rencontré une aussi grande foi dans tout Israël, chez ce centurion, c'est quand même étonnant. Même un Jean-Baptiste, rappelez-vous, qui était pourtant un homme de foi, Jésus dit, lui-même, il n'atteint pas la foi du centurion. Il y a un lien très étroit entre la compréhension de l'autorité, la foi et l'honneur. C'est trois mots qu'on ne peut pas les dissocier. Et le travail de l'ennemi consiste à saper le respect, l'honneur, pour que les choses ne se produisent pas, les guérisons, les prodiges, etc. Et donc il crée des cultures qui ne favorisent pas l'honneur. Par exemple, l'individualisme forcené dans notre nation ne favorise pas l'honneur. On est une culture qui veut des frères. Je dis souvent, la fraternité, et c'est biblique, mais on ne veut pas de paternité, on ne veut pas de maître, on veut des frères, on est tous égaux, et on est tous égaux devant Dieu. Mais l'évangile et tout nous montre que la reconnaissance de Jésus, l'autorité de Jésus, de ce qu'il a donné, des dons qu'il a donné aux uns aux autres, les honorer nous permet de recevoir. Donc on veut être des hommes de foi, comment? Eh bien, en rappelant cette loi spirituelle, 1 Samuel 2:30, « Ceux qui m'honorent, dit Dieu, je les honorerai. Ceux qui me méprisent, eh bien, seront en petite estime. » Et l'honneur à Dieu, quand on voit dans toutes les Écritures, c'est jamais Dieu direct seulement, hein, qui pense que moi j'honore Dieu seul, j'écoute Dieu seul. Mais le problème, c'est que Dieu a un corps. Il y a un corps de Christ. Et honorer le corps de Christ, c'est honorer Dieu. Donc dans l'honneur, il y a une dimension verticale et il y a une dimension horizontale. Et très souvent, on bascule ou de l'un ou de l'autre. Et le Seigneur voudrait nous rappeler la dimension horizontale de l'honneur. Et souvent, on cache le déshonneur en se cachant derrière un honneur vertical. J'ai de compte à rendre à personne qu'à Dieu. Vous voyez, ça, c'est ce genre de discours. Et du coup, on est déconnecté. Et il y a un canal de grâce et de bénédiction que Dieu voudrait tellement donner, mais dont on se prive parfois. Donc attention à cet honneur. Dans Matthieu 10, il est dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. » Donc là, c'est l'image de recevoir le don de Dieu que nous n'avons pas, qu'on reconnaît chez l'autre, un niveau d'autorité qu'on reconnaît chez l'autre. J'accueille le prophète en qualité de prophète. Mais ensuite, ça c'est le rapport avec les gens qui ont une autorité différente, supérieure à la nôtre, dans l'esprit, dans le Seigneur. Ensuite, il est dit, il continue, que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Nous sommes des justes. Donc ça, c'est la dimension horizontale. Comment tu reçois ton frère? Si tu le reçois comme un juste, quelqu'un de justifié de Dieu, le voir juste, ça c'est la façon de voir de Dieu. Hein? Dieu nous voit comme ça. Mais parfois, on est fort pour voir le mal chez l'autre, parfois. Hein? Et parfois c'est vrai. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il nous regarde? Il nous regarde au travers du sang de Jésus. Et donc quand il nous voit parfait. Même si parfois, il y a des imperfections, bien sûr. Parfois, on chute. Mais Dieu nous regarde avec un regard. Le regard de Jésus sur nous, c'est le regard qui voudrait qu'on ait les uns sur les autres. Accueillir un juste. Alors, quelqu'un te dit, mais non, c'est qu'un pécheur. C'est qu'un pauvre gars. Regarde un peu ce qu'il a fait. Et donc, tu ne l'accueilles plus en tant que juste. Et là, c'est le déshonneur. Parce que quand on est au Seigneur, on est déclaré juste. Et ça, c'est une chose de déclarer juste, c'est une autre chose d'accueillir son frère et sa sœur comme quelqu'un de justifié. Et ça, c'est la culture de l'honneur. Et puis, vous avez ensuite, lorsqu'il est dit, quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc ça, c'est par rapport aux plus faibles, par rapport aux plus faibles. Et cette notion, je rappelais par rapport à l'Europe, cette notion que le plus faible est important, c'est la base du suffrage universel. C'est la base du fait que chacun peut voter. C'est une idée chrétienne. Le plus petit, il a sa voix. Il n'y a pas de démocratie sans christianisme. Le christianisme est à la base de cette idée que le plus petit et le plus faible, il a sa voix, il a son importance. Le christianisme a donné de l'honneur aux plus petits pendant des siècles. Et aujourd'hui, on est dans une saison, attention à notre regard et à notre attitude par rapport aux plus petits et aux plus faibles. Et ça, c'est le Dieu jauge les nations au travers du regard qu'on a par rapport aux plus faibles. Donc voyez, on avait vu aussi l'héritage, Proverbe 17:2, l'héritage que Dieu veut nous donner est lié à l'honneur. Et c'est, on voit ça dans Proverbe 17:2, un serviteur sage domine sur le fils qui fait honte. Il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le serviteur, l'esclave, normalement, il a droit à rien. Vous voyez, il a droit à rien. Mais la Bible dit, il domine sur le fils. Le fils qui fait honte, qui n'honore pas son père, sa mère, celui-là, il ne rentre pas dans l'héritage. Mais le serviteur, lui, qui n'avait pas droit à l'héritage parce qu'il honore, eh bien, il reçoit l'héritage. On voit ça dans les droits d'aînesse, dans la Bible. Ceux qui avaient le droit d'aînesse avaient droit à plus que les autres. Mais s'ils méprisaient, s'ils n'honoraient pas cet héritage, ils n'honoraient pas les pères, ils ne rentraient pas dans l'héritage. Donc, honorer, c'est donner la place que la personne mérite, c'est respecter, c'est valoriser. Et nous tous ici, nous avons un héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage, valorisons-le. Par exemple, le monde évangélique pendant 20 ans, moi je me rappelle au début, l'Europe c'était la bête à 10 cornes, vous voyez ? C'est la bête, c'était Satan quoi, c'était voilà. Comment tu veux avoir une influence sur l'Europe si tu penses que l'Europe c'est le diable ? Voilà. Donc il est malin l'ennemi hein. Mais si tu penses que l'Europe, c'est le champ de Dieu, et c'est ton héritage, alors tu vas agir autrement. Donc tout dépend comment on valorise et on voit les choses. Alors, on avait vu aussi la notion d'honorer les autorités difficiles, les autorités impossibles, les autorités pécheresses. Même là, Dieu dit honore, honore. Et on avait vu le fameux texte de Pierre, hein, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont un caractère difficile. Vous voyez, ça c'est la parole qui est dure. Et vous avez Daniel avec le roi de Babylone. Et le roi de Babylone, c'est pas rien quand même. Il voulait les mettre à mort. Mais quand on regarde dans Daniel 3, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Waouh, l'honneur même à ce roi-là. Ô roi, c'est pas rebelle à Dieu, incrédule, Dieu va te juger. Non, 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 ô roi, c'est l'honneur qui est dû même à ses autorités. Et c'est là qu'on voit qu'après cela, après toutes ces histoires, écoutez cette parole, le roi fit prospérer, le roi fit prospérer. Ils auraient déshonoré ce roi. Je suis sûr que ça ne serait pas terminé comme ça. Donc, honorer Dieu, c'est une chose. Et ils l'ont honoré, Daniel a honoré. Il a risqué sa vie en honorant Dieu. Mais il n'a pas seulement honoré Dieu. Il a honoré les autorités que Dieu met en place, même méchantes, même pourries. Il a dit, ô roi. Alors, il a tenu bon. Il a tenu bon. Il ne s'est pas plié pour désobéir à Dieu. Mais son obéissance était teintée d'estime et de compréhension de l'honneur. Donc honorer les personnes en position d'autorité, ça on le voit souvent dans les Écritures, et on ne va pas revenir, on en a parlé un peu, et honorer dans le foyer, donc le père et la mère, et tu vivras longtemps, et ça c'est capital. Et c'est vrai que c'est très difficile d'honorer l'autorité quand on a eu des gros problèmes avec son père, et sa mère et ses gens proches. Donc ça, c'est Dieu veut guérir en premier ça. Et je vous avais raconté ce témoignage personnel. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc où est-ce qu'on en est chacun avec nos pères et nos mères dans l'honneur qui leur est dû? Et ça, c'est on veut cultiver cela parce que ça, il y a beaucoup de promesses qui dépendent. Donc honorer, donner du poids, accorder de l'importance, estimer, traiter avec respect, favorablement. Et donc, tout ça, c'est la culture de l'honneur. Bon, j'essaie de voir les autres exemples qu'on avait vus. Bon. Aujourd'hui, on veut continuer. Quelques points, je ne vais pas être trop long non plus. Mais honorer, toujours cette notion d'autorité, hein, c'est très, très, très biblique tout ça. Et alors, c'est un peu délicat d'en parler, mais quand même, c'est dans la parole. Alors, je vous le dis, et j'aimerais tout de suite dire que il est absolument anti-biblique qu'un responsable quelconque demande à être honoré. D'accord ? Ça, on commence à vriller là. Quand celui qui a une responsabilité, quelle qu'elle soit, demande aux gens « Honore-moi », nous sommes dans une déviation. Parce que l'honneur, il doit se chercher vers Dieu seul, par rapport à toute situation de responsabilité. Par contre, la Bible dit, Hébreux 13, par exemple, « Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis, ils veillent au bien de vos âmes. » Matthieu 10, qui vous reçoit, me reçoit, hein, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et je crois que cette notion de honorer nos pères spirituels aussi, qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Rappelons-nous ça et continuons de trouver des moyens de les honorer. Et la Bible parle d'honorer le corps de Christ en le discernant. Elle parle de la Sainte Cène, 1 Corinthiens 11, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe, car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Discerner le corps de Christ, ça c'est la culture de l'honneur. Je discerne le corps, voyez. Et puis, il est parlé des anciens, 1 Timothée 5, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. C'est le seul passage des Écritures où il est question d'un double honneur. Donc, l'honneur est lié à la reconnaissance de l'autorité Et ça, c'est pas, chacun doit honorer. Hein. On est tous appelés à honorer. Hein. On a vu, il y avait les trois niveaux. Mais là, on a une histoire de double honneur. Alors, il y a un mystère, là. Moi, j'ai pas la clé, je sais pas pourquoi ce verset biblique. Mais il y a une clé ici, de la notion d'un double honneur. Mais attention, tout leader qu'on peut être, on ne doit pas rechercher l'honneur. Hein, attention, là on rentre dans des choses. Honneur, alors maintenant on passe à un autre honneur, Denis en a un peu parlé, mais lorsque Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie », la Bible dit dans Proverbe 3, alors là c'est un passage important, « Honore l'Éternel », écoutez ça, « avec tes biens et le prémisse de tes revenus ». Donc une façon d'honorer Dieu, ça on l'a pas encore vu, mais j'aimerais le souligner en passant, c'est de l'honorer avec nos biens, avec nos dons, mais avec nos biens. Ça fait partie de l'honneur. Et moi je bénis Dieu, je me rappelle, lorsque nous étions les anciens là de Josué, rappelez-vous, lorsqu'on était dans la salle en face, et puis on s'est dit, bon ben cette discothèque là et tout, on aimerait quand même la voir, pas possible, ils font du bruit, ils se trompent, ils viennent chez nous, on a besoin de plus grand. Et puis on s'est rassemblés tous ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, à l'unanimité, on rappelle, on a dit, allez, on fait ce pas de foi. Et la marge financière ne correspondait pas, ne correspondait pas du tout aux besoins. Et Dieu a béni, et chacun s'est mouillé, et ça a permis le miracle. Donc, honorer Dieu, c'est l'honorer avec ses biens. Et on peut, la valeur, notre système de valeur, on peut le voir de façon très simple, où est-ce qu'on met notre temps? Où est-ce qu'on met notre argent? Et c'est là qu'on peut voir qu'est-ce qui a de la valeur pour nous. Voyez. Donc, honorer Dieu avec nos biens. Malachie 1:6, écoutez, c'est Dieu qui parle. Le fils honore le père. Le serviteur honore son seigneur. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et alors ils ont dit, mais comment est-ce qu'on t'a méprisé? Regarde, on prie, on offre des sacrifices, etc. Et Dieu dit, regardez le type de sacrifice que vous m'offrez. Il leur offrait des animaux qui étaient en fin de course, des borgnes, qui coûtaient pas cher. Et ils se gardaient les meilleures parts. Et Dieu dit, là, oh là, tu dis que tu m'honores, mais regarde ce que tu m'offres. Donc, vous voyez, Dieu regarde nos offrandes. Il regarde nos offrandes. Et quand il dit quand même, un fils honore son père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est vraiment intéressant. Donc, cette notion d'honneur, elle est une notion aussi financière qui est là. 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul parle. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'un d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris dans le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à l'évangile? Moi, je crois que dans les années qui viennent, dans cette église, eh bien, il y a des ministères qu'il va falloir soutenir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est un temps qui va venir. Pour l'instant, on est un peu dans nos travaux, dans tout ça. Mais Dieu dit, attention, le temps vient où il va falloir libérer les ministères et se préparer au niveau d'honorer avec l'aspect financier. Philippiens 4, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, c'est extraordinaire ça. Vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On connaît ce verset. J'avais déjà dit une fois, et c'est une promesse qu'on a pour nous tous. Dieu pourvoira à mes besoins. Le seul problème, c'est que le contexte de ce verset, c'est la communauté. Et alors, c'est pas faux de le prendre pour soi, mais lisons les Écritures comme elles sont. Il s'agit d'une église ici. Et cette église qui a su donner, Dieu dit, par l'apôtre Paul, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et il a pas dit, sans contexte. Le contexte, c'est vous avez su donner, vous avez su investir. Eh bien, à cause de cela, je pourvoirai à tous vos besoins, dit Dieu. Vous voyez le contexte. C'est, parfois, on peut le prendre de façon individualiste. Hein, on s'occupe de, pas, ni du royaume, ni de la maison de Dieu, ni de rien. Et on dit, on est centré sur nos besoins. Et on dit, Dieu pourvoira à mes besoins. On prend ce texte de l'Écriture, l'un, pour soi. Et de dire, relis la parole. Cette promesse a été donnée à ceux qui donnent et à une église tout entière. Donc, il y a cette promesse et on croit en tant qu'église que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et on a des grands, et merci Seigneur, parce qu'on le croit. Agé 1, 5-9. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez beaucoup, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel, donc vraiment des problèmes là, vous voyez, que des problèmes. Des sacs percés, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié de l'Éternel. Vous comptiez beaucoup, et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Et je crois que là, Dieu veut réactiver la vision de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est bien plus qu'une église locale, parce que la maison de Dieu, c'est sa terre. C'est la terre tout entière. C'est sa maison. Et bien sûr, ça commence par cette maison locale, mais je crois que Dieu veut, il y dit ici, il y a des sacs percés, on a l'impression de tout perdre, et Dieu dit, moi je souffle dessus, parce que tu n'as pas pris à cœur ma maison. Dieu voudrait réactiver un amour pour sa maison, pour sa maison. Hein? Moi je bénis Dieu pour ce qui existe au milieu de nous, cet amour pour sa maison, mais je demande plus pour moi-même et pour nous tous, une plus grande passion pour sa maison. J'ai un petit exemple, une fois, c'est un témoignage personnel, je ne me rappelle plus si je l'ai déjà dit ou pas, c'était avec Manula, on était jeunes mariés, on avait 3 enfants, et puis on s'est dit, bien sûr, notre rêve, c'était un jour d'avoir une maison, hein, bien sûr, hein, tout. Et c'est normal. Et alors, on était là, on économisait, puis avec un SMIC pour économiser, vous savez, pour y aller longtemps, hein. C'était un peu dur, quoi. Hein. Mais quand même, il y a eu une fois un don de la famille, tout ça. Bref, on est arrivé à mettre dans un compte épargne, là, on s'est dit, bon... Puis avec ça, on s'est dit, bon, bah, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, tu vois. Puis un jour, j'arrive à une conférence, c'était à Mulhouse, convention, et on rentre un peu en retard, parce qu'il y a eu 3 bambins, tout ça. Puis alors, et le gars sur l'estrade, il était en train de lire ce texte. Alors... Je l'ai pas pris comme une condamnation. C'est pas une condamnation de Dieu, mais c'est comme si Dieu me disait, tu vois, tu te préoccupes de ta maison, c'est bien, je t'en veux pas. Et ma maison à moi. Ouh là là. Et alors avec Manuela, on s'est vu, on s'est regardé, ouh là là. Et bon, on a cassé le compte d'épargne, vlan, un don. Et des années plus tard, Dieu avait une bien meilleure maison pour nous que tout ce qu'on aurait pu faire avec nos propres moyens. Donc. Dieu est un Dieu qui ne veut pas nous condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il veut nous rappeler, il veut nous redonner un zèle pour sa maison. Et lorsqu'il est dit dans Proverbe 3, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Alors arrêtons-nous là. Les greniers et les cuves. Alors les greniers... C'est où on stocke, c'est nos biens, quoi. C'est nos biens que l'on stocke, ça peut être notre compte d'épargne, ça peut être, voilà, ça c'est nos biens, vous voyez. Et les cuves, ça déborde, dit Dieu. Eh bien, les cuves, c'est regorgeons de mou. Le mou, c'est quoi? Ben, le mou, c'est la présence de Dieu. C'est la joie de Dieu, le mou. Le mou, c'est la joie de Dieu. Et aucune cuve ne peut contenir tellement c'est fort, cette joie de Dieu. Le mou, c'est le vin nouveau, c'est la présence fraîche de Dieu. Qui est lié directement avec le fait d'honorer Dieu par nos biens. Est-ce qu'il y a un rapport entre la joie et le fait de donner? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il y a un rapport. Et alors, regardez ça. 2 Corinthiens 8, 1 à 3. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Alors, les églises de Macédoine, écoutez ce qu'elles faisaient. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, donc les églises de Macédoine, c'était pas facile, c'était la galère, c'était la persécution. Un. Ensuite, au milieu de beaucoup de tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Et est-ce qu'il y a un... quel est le rapport entre la pauvreté profonde et la joie? C'est incroyable. Leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Mais ils étaient pauvres et ils ont été riches en libéralité. Et la joie de Dieu, le mou, la parole de Dieu s'est appliquée. Ils ont vécu le mou, la présence fraîche de l'Esprit. Ça, c'est fort, ce texte. Moi, je trouve que ce matin, ça a résonné les églises de Macédoine. Alors, on pourrait dire, mais leur pauvreté est profonde. Si Dieu était avec eux, ils ne seraient pas pauvres comme ça. Vous voyez, on pourrait. Mais non, ils étaient pleins de mou, leur joie débordante. Est-ce qu'on pourrait dire un jour à Josué, leur pauvreté profonde et leur joie débordante ont fait qu'ils ont pu donner. Mais c'est déjà là, c'est déjà le fait. Et je bénis Dieu pour cela. Et maintenant, honorer Dieu avec nos biens, honorer nos pères. Alors, P-A-I-R-S, hein, nos pères, le juste en qualité de juste. Romains 12, 9, 10, on va s'arrêter sur ce verset. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, écoutez ça, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance. Alors c'est quoi la prévenance? Ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent, être prévenant. Hein, c'est bizarre ce mot. Ce mot, ça veut dire, c'est toute action et toute parole par laquelle on cherche à prévenir les désirs de quelqu'un. Quelqu'un, il a un désir, eh bien on agit, il a pas d'ordre, il n'a pas donné d'ordre. Il a un désir seulement dans son cœur. Eh bien avant qu'il l'ait formulé, on arrive. Ça, c'est la prévenance. On agit, pas sur un commandement, mais parce qu'on a entendu, on a discerné un besoin, un désir qui n'a même pas été encore formulé. Ça, c'est la prévenance. Aller au-devant des désirs d'autrui. Chercher à faire plaisir. Alors là, il y a un exemple extraordinaire dans les Écritures. Extraordinaire. C'est l'exemple de 2 Samuel, chapitre 23, versets 15 à 20. Au temps de David, lorsqu'il était dans une caverne et qu'il y a des chefs de guerre qui étaient en train de se lever. Il est dit ceci, « Trois des 30 chefs descendirent et vint au temps de la moisson vers David, dans la caverne d'Adullam, comme une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Et David était alors dans le lieu fort. Il y avait alors un poste des Philistins à Bethléem. Et David, alors il y a plusieurs traductions, il y a le mot « convoita », mais il y a aussi « David émit un désir ». Il soupira. Et alors il dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte? Donc David était tout seul. Ses compagnons n'étaient pas dans la même pièce. Hein, mais ils ont entendu. Ils ont entendu David parler tout seul. Je ne sais pas si vous arrive de parler tout seul. C'est biblique, vous voyez. Donc, il disait, qui me fera boire de l'eau? Il avait soif. Il n'y avait pas d'ordre. C'était un général, mais aucun ordre donné. Il n'aurait pas dit, qui c'est qui? Apporte-moi de l'eau. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit à Dieu. C'était un désir, il avait soif. Et ces gens qui étaient proches, les trois hommes forts, ils ont entendu ça. Ils forcèrent le passage à travers le camp des Philistins, puisèrent de l'eau dans le puits de Bethléem qui est près de la porte, et le prirent et l'apportèrent à David. Donc ils ont risqué deux fois leur vie. En sortant, pour aller à Bethléem, il fallait traverser la ligne des Philistins, il fallait revenir, et ils ont donné de l'eau. Et la Bible dit, ces trois hommes-là, il y a toute une description après des hommes vaillants de David qui ont fait bien plus que ça, qui ont transpercé des géants, qui ont des gros trucs. Mais chaque fois, la Bible dit, personne n'a atteint le degré de ces trois premiers. Parce que l'honneur qu'ils avaient développé, la prévenance qu'ils avaient développée, ça a touché le cœur de David et ça a touché le cœur de Dieu. Donc, le refrain qui vient après, il s'agit des hommes forts. La force véritable, elle vient dans une culture de l'honneur. La véritable force spirituelle. Et ces trois-là, visiblement, quelqu'un qui pourra leur dire, qu'est-ce que tu as fait toi comme exploit au temps de David? Je lui ai cherché un verre d'eau. Ah bon, on pourrait rigoler un peu. Par rapport aux autres qui se sont farcis des géants, des troupes et tout. Non, ils ont cherché un verre d'eau. Mais ce qui est être fort, c'est pas ce qu'on pense toujours, mais c'est cette prévenance. Philippiens 2, 1, 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, traduire ça concrètement. Chacun, réfléchissons, ça veut dire quoi? Prendre les intérêts des autres de façon sérieuse, au sérieux. C'est une révolution. Je sais pas vous, mais ça vient pas tout seul. Notre habitude, c'est on prend nos intérêts en premier, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Mais la Bible dit, considère les intérêts des autres. Et là, on a la culture de l'honneur. On a quelque chose au cœur de la culture de l'honneur. Et puis, honorer donc les plus petits. Honorer ceux, quiconque honorera d'un seul verre d'eau froide l'un de ses petits en qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense. Eh bien, c'est honorer les plus petits. Juste, j'ai oublié un texte par rapport à honorer un prophète. Vous connaissez cette dame qui avait plus d'huile, qui n'avait plus rien à manger. Beaucoup de veuves en Israël sont mortes, mais il y en a une qui n'est pas morte. Et le prophète Élie qui arrive chez elle, qui lui dit « Donne-moi ton huile. » Mais c'est, il me reste plus que ça. Eh bien, fais-moi un gâteau, pour moi. Quel scandale. Quel scandale. Le gars, serviteur de Dieu, il va manger la dernière ration d'une veuve. Ouh là 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 là. Mais ça va à l'encontre de toute notre culture. C'est un scandale. Mais cette femme a reconnu un homme de Dieu. Elle lui a donné le peu qu'elle avait. Et la Bible dit, vous savez l'histoire, elle a manqué de rien. Lui, il a abondé. Sa maison a été transformée. Mais il a fallu qu'elle passe par ce test de fou, quoi. Et je dis, est-ce que nous, on aurait passé ce test? Posons-nous la question. On n'a plus rien, il nous faut donner ce qu'on a. C'est vraiment, là on touche à des mystères de Dieu, à cette parole qui est tellement importante d'honorer. Et maintenant, honorer les grands, les prophètes, mais honorer les plus petits, qui sont les enfants. Et ça, c'est le jugement de Dieu par les nations. Matthieu 25, je termine bientôt. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les unes avec les autres, comme le berger sépare la brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et donc le jugement de Dieu, si vous voulez, c'est par rapport à une culture de l'honneur, par rapport à ceux qui sont au-dessus de nous, par rapport à ceux qui sont nos frères et sœurs, par rapport à ceux qui sont plus faibles que nous. Mais le critère du jugement des nations, il touche à une culture de l'honneur envers les plus petits. Et c'est pour ça que je crois vraiment que ce n'est pas le seul ingrédient, mais le fait de s'occuper d'éducation, c'est une façon de s'occuper des plus petits et de leur transmettre ce qu'on a de meilleur. C'est une façon de les honorer. Et tous ces enseignants qui donnent leur vie, qui donnent leur bien, qui donnent leur temps, c'est honorer les plus petits. Et cette parole-là, c'est quand même une parole importante, une promesse importante. Mais Dieu voudrait que la nation de France et que les nations d'Europe reviennent à cet héritage qui était d'honorer les plus petits. Je pense à ces temps, lorsqu'il y avait les invasions barbares, vous ne pouvez pas vous trimballer en France, nous sommes au VIe siècle, sans qu'il y ait des problèmes de vous risquer votre vie, quoi, tout simplement. La culture ambiante, c'était la violence. La culture ambiante, c'était la violence. Et les enfants, on les appelait les infants, c'est-à-dire en latin, celui qui n'a rien à dire. Et le mot puer, c'est le mot esclave, c'est le même mot puer, puericultrice, c'est le mot latin, ça veut dire esclave. Donc la vision des enfants, c'était rien. Mais le christianisme est venu et a transformé la vision des enfants. Et les monastères, les moines qui étaient, attendez, les moines, ils imposaient les mains aux malades, les malades étaient guéris. C'était des conversions par centaines, c'était des formations, c'était le don de soi. Ils ont fait ces monastères, ils ont dit aux enfants, venez, on va vous former, on va vous éduquer. Et dans ces lieux, au milieu d'une culture de mort, il y avait des lieux de culture de vie qu'ont été ces monastères, avec l'adoration, la maison de prière, l'éducation, la formation. Et petit à petit, l'Europe a basculé et est devenue vision chrétienne. C'était pas parfait, c'est jamais parfait sur Terre complètement, bien sûr. Mais quand même, ça a commencé par une vision aussi pour les enfants et les plus petits. Ça, c'était inimaginable pour les Grecs, les Romains. C'est le christianisme. C'est la vision juive de l'enfant aussi qui a donné ça et qui a fait la prospérité de l'Europe. Et je crois que le signe aujourd'hui de ces dizaines et dizaines d'écoles chrétiennes qui se bâtissent, entre autres, c'est pas seulement ça, mais il y a des tas d'œuvres chrétiennes qui s'occupent des enfants, bien sûr. Mais c'est un signe tellement encourageant, parce que c'est le véritable signe, je pense, d'une réforme pour l'Europe et d'une visitation de Dieu pour l'Europe. L'honneur aux plus petits attire l'honneur de Dieu. Et quand Dieu dit « Celui qui m'honore, je l'honorerai », quand il dit « Celui qui m'honore », ce n'est pas lui directement. On honore Dieu en servant notre prochain, en servant les plus petits. On honore Dieu et ça attire la présence de Dieu. Eh bien, que Dieu nous aide à rentrer pleinement dans cette culture de l'honneur et à ainsi débloquer les écluses des cieux et débloquer le mou que Dieu a pour nous dans une culture de la libéralité, du don de soi, et du don de ce qu'on est et de ce qu'on a. Je bénis le Seigneur pour ses équipes aussi qui travaillent ici. Hier, je suis juste passé, malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous, mais je bénis Denis, Christophe, tous ceux qui servent, tous ceux qui servent aussi le cours Alpha. Là, je pense à Elisabeth, il faudra donner un témoignage de ça. C'est merveilleux. Et toute l'équipe des cours Alpha, ceux qui font le ménage, ceux qui font la cuisine. Et ça devient une ruche ici. Et je prie que chacun trouve sa place pour le service dans une attitude d'honneur. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta promesse, c'est que tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, débarrasse-nous de toute culture qui n'est pas la tienne et qui fait qu'on s'occupe de soi, qui fait qu'on pense d'abord à soi, qui vraiment, Seigneur, débarrasse-nous de ces vieux manteaux. Et Seigneur, nous prenons ce manteau de l'honneur qui était le manteau des prophètes, qui était le manteau du centurion, qui était le manteau de cette veuve en Israël qui a honoré le prophète. Seigneur, donne-nous cette culture de l'honneur dans nos finances, dans nos biens, dans nos relations. Seigneur, aide-nous en particulier avec la prévenance. Seigneur, merci. Et parce que toi, tu as manifesté l'honneur envers les plus faibles et envers nous qui étions loin de toi. Et à cause de chacun de nous, tu es descendu du ciel de gloire. Tu as laissé l'honneur, tu as accepté le mépris pour venir toucher nos vies. Seigneur, tu as montré l'exemple de ce qu'est honorer les plus petits, les plus pécheurs, ceux qui sentaient mauvais, les fils prodigues dans les étables avec les cochons. Seigneur, tu es un père qui accueille tout ce monde. Eh bien, nous te bénissons et nous sommes tellement contents de t'appartenir, Seigneur. Que l'honneur sature l'atmosphère de nos familles, de nos relations et de cette maison, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.